Isabelle, Swaheta Yoga. Bienvenue dans notre nouvel épisode consacré aujourd'hui au pranayama. Vous avez sans doute déjà entendu parler de ces techniques qui visent le contrôle de l'énergie vitale au moyen de la respiration. Souvent, les cours de yoga, quand ils sont dispensés par des professeurs de Hatha Yoga, qui ont reçu un enseignement de leur maître, proposent toujours de commencer la classe par des exercices de contrôle du souffle. Alors aujourd'hui, je vais vous donner la définition de ce qu'est le pranayama et également quelques mises en garde pour vous inviter autant que possible à travailler sur ces aspects de contrôle de l'énergie vitale en présence et accompagné d'un maître enseignant. Bien qu'il y ait beaucoup de livres, beaucoup de vidéos, des tutoriels, voire qui parlent de techniques à appliquer pour le souffle et le contrôle de l'énergie, je voudrais quand même vous rappeler que ces techniques ancestrales peuvent avoir autant de bénéfices que de méfaits si elles sont mal pratiquées. Alors sans plus tarder, voilà la définition que j'ai trouvée dans la littérature et je vais m'inspirer pour cela du magnifique livre de Boris Tatsky, Le souffle, énergie du yoga. Sa définition du pranayama est la suivante. C'est la globalité des techniques qui mettent en jeu le contrôle de l'énergie vitale, qu'on appelle prana, au moyen de la respiration. Alors, me direz-vous, il va falloir qu'on explique ce qu'est le prana. Le prana est riche en sens, comme toujours en sanskrit. Il y a un sens symbolique, et voire même un sens poétique. Je retiendrai cette explication d'un érudit à Chennai un soir, avec lequel l'auteur de ce magnifique livre discutait. Alors, qu'est-ce que le prana lui avait-il demandé? Et ce maître avait répondu: lorsque vous écoutez votre cœur, vous entendez ses battements. Il varie en fonction de vos émotions, de vos efforts. C'est le prana, qui est la force intelligente qui fait battre votre cœur. Lorsque vous regardez les étoiles, vous voyez leurs mouvements harmonieux dans le firmament. C'est le prana, qui est la force intelligente qui fait mouvoir les étoiles. Et c'est le même prana qui fait battre votre cœur et danser les étoiles. Je trouve cette réponse absolument magnifique. Elle représente tout à fait l'universalité même du prana, qui anime chaque phénomène et qui relie le microcosme au macrocosme. Il y a d'autres définitions du pranayama que l'on peut retrouver dans les chapitres du Yoga Sutra proposé par Patanjali. Notamment, une définition qui a attiré mon attention, il a dit « Cela réalisé, la maîtrise du souffle s'acquiert par l'arrêt du mouvement de la respiration. » Alors, « cela réalisé », ça m'a un petit peu interpellée parce que j'ai compris à ce moment-là que cela réalisé voulait dire que la pratique du pranayama n'est souhaitable qu'après la réalisation et l'aptitude de l'élève à prendre une attitude physique adéquate. Et c'est pour cela que dans mes autres vidéos ou dans mes cours, j'insiste beaucoup sur la posture assise, stable et agréable, Sukhasana, dans laquelle je vous propose de vous installer et qui est absolument indispensable pour pouvoir se mettre en posture de commencer à travailler sur l'énergie vitale, le souffle et sa régulation. Donc, l'acquisition de cette stabilité doit être perçue, d'après Patanjali, comme un préalable pour rentrer en résonance avec une stabilité mentale. C'est extrêmement important. Je dirais même que c'est l'essence même du pranayama. Un premier niveau de lecture pourrait nous faire penser que l'arrêt des mouvements un peu désordonnés et inconscients du souffle, remplacé par une respiration devenue consciente et régulière d'instant en instant, va être le premier niveau finalement d'accès au pranayama. Juste commencer vraiment avec méthode à accepter que le premier exercice de pranayama, qui peut durer même des années si vous le souhaitez, si vous ne souhaitez pas aller au-delà, c'est déjà un préalable essentiel et peut-être même suffisant de commencer à placer l'attention à l'entrée des narines et observer le passage de l'air à chaque inspiration et à chaque expiration. Je dirais que c'est le premier acte. Vous pouvez développer ensuite, quand ceci est acquis, passer au deuxième niveau, je dirais. Et dans ce cas, on pourra commencer à entrer dans des arrêts du souffle en tant que, je dirais, suspension de la respiration, des petites apnées, je dirais, plus ou moins courtes, plus ou moins longues, en fin d'inspiration et en fin d'expiration. Il existe aussi un troisième niveau qui comprend l'arrêt des mouvements du souffle, mais au sens littéral. Mais c'est un état où on ne perçoit plus ni l'inspiration, ni l'expiration, ni la suspension, Kevalakumbhaka, pour le dire en sanskrit. Et c'est un état un peu paradoxal qui installe à l'état de méditation. C'est quand même un état relativement élevé auquel on ne peut se prédisposer qu'après avoir passé vraiment les premiers et deuxièmes niveaux quand on se sent vraiment prêt. Permettez-moi maintenant d'approfondir un peu ces différentes phases de la respiration. Allons un peu plus loin dans notre niveau de compréhension et de connaissance du phénomène respiratoire. Chaque mouvement de respiration est divisé en trois parties. Vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte. Quand on respire et qu'on respire sans conscience, on croit qu'on inspire et qu'on expire, plus ou moins automatiquement. Mais en réalité, il y a l'expiration, l'inspiration et une partie qui désigne un peu le moment de suspension. L'expiration est appelée Réchaka. Pour les yogins, elle est connotée comme ayant la faculté d'élimination, de purification et, écoutez bien, c'est très important, de transfert de l'énergie vitale d'un point à un autre du corps. Je dis ça parce que plus tard, quand on va associer des visualisations au mouvement du souffle, il sera important de visualiser justement ce mouvement. Mais nous y reviendrons. La deuxième phase de la respiration, c'est l'inspiration, on l'appelle puraka. Elle est associée, pour les yogins, à la faculté d'absorber. et donc de faire descendre l'énergie, le prana, l'énergie vitale, à l'intérieur du corps de celui qui respire, du pratiquant. Et la troisième partie, la suspension, c'est Kumbhaka. Ça veut dire littéralement le vase, le pot. Cette partie désigne la faculté de suspendre le souffle et véritablement, je dois dire que c'est dans ces moments de suspension que la pratique nécessite une progression très intelligente, parfaitement adaptée à la personne qui veut se dédier au pranayama et, si possible, accompagnée d'un maître. Souvent, Kumbhaka est traduit comme rétention. Moi, je n'aime pas ce terme parce que rétention me semble devoir presque nécessiter de faire un effort. Je préfère suspension du souffle. On entend davantage de fluidité dans l'effort de retenue de ces petites apnées. Voilà pourquoi je voulais mettre l'accent aujourd'hui sur cet épisode introductif au pranayama, sur la nécessaire appropriation de cette pratique, parce que on ne peut pas jouer avec le souffle comme on pourrait jouer aux cartes. Une pratique appropriée peut renforcer la vitalité, c'est certain. Mais une pratique incorrecte risquerait de la mettre en péril. Alors c'est quoi, vous me direz-vous, une pratique correcte? Eh bien, je dirais que on doit, avec justesse, chaque fois, rejeter l'air, et avec justesse, l'inspirer, et avec justesse, le retenir. C'est ainsi qu'on obtient l'accomplissement parfait. Ça, ce sont les textes qui le disent. La justesse du souffle, prana-yuktam, la porte d'entrée du pranayama. Tant que la respiration demeure tranquille, fine, régulière, alors le pranayama est bénéfique. Je vous conseille de vous doter peut-être d'un instrument pour mesurer votre pouls. Vous pourrez vérifier la justesse de l'exercice en prenant votre pouls en deux temps, avant et après la pratique. Donc avant de vous lancer dans un exercice de pranayama, celui qui vous plaît, dans lequel vous vous sentez bien, que ce soit un exercice de premier, de deuxième ou de troisième niveau, vous prendrez le temps de vous détendre quelques instants, je dirais 2 à 3 minutes, de vous asseoir ou de vous allonger, et vous prendrez votre pouls, puis vous noterez le résultat. Après la pratique du pranayama, vous irez de nouveau vous détendre, vous allonger ou vous asseoir sur une chaise, par exemple, puisque le pranayama se fait assis en tailleur, et vous prendrez à nouveau votre pouls. Vous pourrez ainsi comparer les deux résultats. La seule chose qui doit être impérative, c'est que, d'une manière générale, le pouls, après l'exercice, ne doit pas être supérieur à celui du début. Mais je vous dirai une dernière fois que, de manière générale, en dehors du contrôle d'un professeur expérimenté, il est fortement déconseillé de pratiquer de longues suspensions respiratoires, surtout si vous souffrez d'hypertension, même sous médicaments, ou de troubles cardiaques, voire même de troubles respiratoires. Je finirai cet épisode introductif par la description, selon moi et selon mes maîtres, de ce qu'on appelle les conditions de réalisation optimale. La pratique doit être persévérante. pour qu'elle puisse procurer des effets puissants. On ne peut pas faire son petit pranayama une fois tous les 6 mois en pensant avoir réalisé quelque chose. Outre les préoccupations que j'ai déjà évoquées sur l'état de santé et le pouls, bien entendu, je vous demanderai de vous préparer, notamment en étant déjà dans une posture fermement installée, c'est-à-dire déjà il faut que vous puissiez rester en tailleur, que ce soit en lotus, en demi-lotus, les jambes croisées en tailleur classique, normal, si possible sur un coussin et le dos droit. Je vous ai bien entendu montré des vidéos pour dans ma chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez vous référer puisque j'ai fait une vidéo sur comment bien s'asseoir pour méditer. C'est la même posture que pour respirer. Donc, je rappelle, la posture doit être absolument confortable. Mais pas seulement, il n'est pas seulement question de la posture, mais la posture assise, oui, mais pour maintenir longtemps et sans tension une posture assise, vous noterez qu'il faut aussi que votre mental soit calme et que votre corps ait été suffisamment préparé. Donc, les pratiques posturales, par exemple, quelques salutations au soleil, délier votre corps, peut-être même si vous ne faites pas de hatha yoga, peut-être aller faire un peu de marche rapide, quelques exercices de gymnastique si vous le souhaitez, un peu de vélo, un peu de nage, bougez votre corps, faire circuler les énergies, puis tranquillement prenez votre position assise, le dos droit, sur un coussin, et vous comprendrez ce qu'est le terme posture fermement installée. On est sans tension, mais on est complètement ancré dans l'assise. Il y a un autre préalable, c'est celui, bien sûr, de l'alimentation. L'alimentation doit être bénéfique et mesurée. Il y a des règles diététiques que l'on doit suivre si l'on veut se garder en bonne santé. Ce n'est pas parce que vous allez faire le pranayama très régulièrement et vos exercices de gymnastique ou de yoga très régulièrement. Et si vous vous alimentez mal, vous ne pouvez pas penser que vous allez garder votre corps en santé. Pensez toujours que votre alimentation contribue à votre vitalité et je n'ai rien à vous dire sur les bienfaits du végétarisme ou toute autre comment dire, règle alimentaire. Chacun est tout à fait libre. Vous mangez ce que vous voulez, simplement s'il était possible que vous puissiez manger des produits frais que vous avez cuisinés vous-même, des produits de saison, des fruits et légumes de saison. Éviter bien entendu les excitants, l'alcool et tout ce qui est toxique, ça va de soi. Et pour finir avec les conditions préalables que je tiens à énumérer aujourd'hui dans cet épisode introductif, c'est des conditions mentales, je dirais, des conditions psychiques. Pour garantir une pratique du pranayama vraiment bénéfique et des effets vitaux et sur la vitalité durable et prolongée, je pense que votre engagement, votre enthousiasme est absolument nécessaire. Mais ça, c'est comme toute chose, hein. Les choses qu'on fait sans enthousiasme, on ne les fait finalement qu'à moitié. Donc, si vous êtes motivé, si vous avez vraiment envie d'accompagner votre vie d'éléments favorisant la vitalité, la santé, le bien-être et la joie, votre pratique du pranayama n'en sera que meilleure. Et ceci étant dit, vous pourrez même compléter cette écoute de cet épisode sur le pranayama par, qui sait, aller écouter certains de mes podcasts sur des éléments plutôt d'ordre psychologique, comment cultiver l'enthousiasme, la joie, qu'est-ce que le bonheur, et tous mes podcasts dédiés à l'accompagnement vers le changement qui sont vraiment faits pour que votre mental, vos conditions mentales en tout cas, favorisent le succès dans votre détermination ou votre envie de découvrir ce monde merveilleux du yoga, du pranayama et de la méditation. Dans le prochain épisode, on commencera la pratique et on apprendra tout simplement à se relier au souffle. À très bientôt. Merci. Namasté.